Chers jeunes, chers frères et sœurs, nous avons cette belle lecture du livre des rois pour commencer. Et alors pour présenter un peu la situation, il faut voir que c'est le prophète Élie qui va donc dans cette famille qui se compose donc de cette maman et de son fils, cette maman qui est veuve et de son fils. Mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est chez eux. Parce que c'est lors d'une grande famine, d'une grande sécheresse, qu'Élie avait trouvé refuge chez eux. Il pleuvait plus, donc il n'y avait plus rien à manger, il y avait peu de choses à boire. Et Élie avait demandé, écoutez, faites-moi une galette, parce que j'ai faim. Et la femme dit, tu sais, on n'a plus qu'un tout petit peu de farine, je vais prendre cette farine, je vais te faire une galette avec ça, puis après nous on va mourir, parce qu'on n'a plus rien. Et à ce moment-là, Élie fait un miracle. Il multiplie la farine et il multiplie l'huile. Ce qui fait que jamais la farine ne s'épuise et jamais non plus l'huile ne se vide. Et voilà que donc cette femme et son fils, ils peuvent traverser ce moment de sécheresse, ce moment de famine, et ils peuvent ainsi survivre. Et c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce fils qui a traversé la mort à quoi lui promettait la famine, eh bien, aujourd'hui, ce fils est pris par la mort, justement. Alors, on peut dire, si on voudrait être sadique, on ne s'y prendrait pas autrement. Élie a ressuscité cet enfant pour que, quelques mois, quelques temps après, peut-être, eh bien, la mort le prenne dans la fleur de l'âge. Et on comprend la révolte de cette femme. Pourquoi tu m'as rendu mon enfant? Pourquoi tu nous as fait survivre si c'est aujourd'hui pour me le reprendre? Cette révolte qu'elle adresse à Dieu par l'intermédiaire du prophète. Et c'est une vraie question. Pourquoi cette guérison? Parce que c'est une réflexion qui traîne dans l'esprit de l'humanité depuis les origines. Les Grecs avaient un mythe qui s'appelait le mythe de Tantale. Tantale, c'était un ami des dieux qui partageait leur repas dans l'Olympe. Et puis, ce Tantale avait fait une grosse faute, peu importe laquelle, et les Grecs le condamnèrent à un supplice terrible, à la faim et à la soif. Alors jusque-là, on peut dire d'accord. Mais c'était sadique parce que les Grecs les dieux l'avaient plongé dans un fleuve, et chaque fois que Tantale avait soif, il se penchait vers l'eau, et aussitôt l'eau disparaissait. Et chaque fois qu'il avait faim, il tendait la main vers les fruits qui étaient au-dessus de lui, et le vent écartait les branches, et jamais il ne pouvait s'en saisir. Voilà une faim et une soif toujours aiguisée par les biens qui étaient autour de lui et que jamais il ne pouvait toucher, dont jamais il ne pouvait se saisir. Et c'est parfois un petit peu ça notre vision de Dieu. Dieu nous fait vivre uniquement pour que nous puissions souffrir finalement. Comme aujourd'hui, il a rendu la vie uniquement pour que cet enfant puisse mourir. Et peut-être qu'on peut en dire exactement autant de ce jeune, de cette femme de Naïm, que ressuscite Jésus aujourd'hui. Bien, il va le ressusciter parce que ce jeune homme est mort, mais c'est pour être promis à la mort un peu plus tard. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert finalement les guérisons de Jésus? À quoi ça sert qu'il multiplie le pain pour une foule affamée si c'est pour que de toute façon on soit emporté par la mort? C'est une vraie question qui habite nos cœurs et qui parfois peut vraiment nous détruire ou en tout cas nous préoccuper. Alors je pense qu'il y a à cela comme deux moyens d'y répondre. D'abord, corriger un peu notre vision de la vie, si je puis dire. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? On est né il y a quelques années, une quinzaine d'années, un peu moins, un peu plus. Ça dépend de la jeunesse accumulée. Et puis, on peut dire, la vie, c'est comme un grand parc d'attractions. Ici, pas très loin, il y a le parc Astérix. Il y a le Euro Disney, pour ceux qui préfèrent les Américains. Ça, c'est au goût de chacun. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le parc d'attractions? Je paye mon billet, je rentre et je m'amuse bien. Et puis, à l'extérieur, il y a toute la misère du monde, ça m'est bien égal. Il y a des grands grillages entre le parc et puis le monde extérieur. Dans le parc, il n'y a pas de handicapés, il n'y a pas de gens n'y a pas de mendiants, il n'y a que des jeunes, parce que les vieux, ils seraient un petit peu trop secoués dans les manèges. Voilà. Et puis, quand c'est fini, ben, je m'en vais. Je ne sais pas trop à quoi tout cela rime. Hein. Je me suis bien amusé, c'est déjà pas mal. J'en ai bien profité. Et puis, j'ai aucune envie de penser à ce qu'il y a à l'extérieur, ou ce qu'il y a de moche dans ma vie, ou de ce qu'il y a de compliqué. Un conflit que j'ai eu avec un ami, mes parents qui ne s'entendent pas, etc. Tout ça, je le laisse à l'extérieur. Est-ce que c'est ça, la vie? Ou est-ce que la vie, on ne peut pas dire que c'est une école? Une école, alors le mot, ça n'a pas tellement bonne presse, c'est pas super de parler d'école pour parler de la vie, on a mis autre chose que l'école souvent, mais malgré tout, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous permet de grandir? Si l'école, c'était sa vision, c'était sa mission, ça serait déjà pas mal. Une école ou, pour le dire autrement, un laboratoire pour apprendre à aimer. Si nous sommes réalistes, on verra bien que la vie, elle nous fera traverser des moments heureux, comme cette résurrection de ce fils. Et bien, il est évident que la maman est folle de joie quand elle voit son fils qui lui est remis dans ses bras, comme le dit l'Évangile. Et puis aussi des moments de deuil, des moments peut-être de séparation d'avec un être cher, peut-être des disputes dans la famille, c'est pas toujours facile, peut-être des deuils, des maladies aussi, de manière plus quotidienne, des mauvaises notes à l'école, parfois une rupture sentimentale. Il y a tant de jeunes qui se donnent la mort après un échec amoureux, ou alors qui ont des conduites complètement suicidaires, parce qu'ils ont perdu leur petite amie. Ou bien alors, dans cette vie dont on n'a pas tout compris, parfois on s'accroche comme des fous à ces petits bonheurs de la vie quotidienne ou aux biens matériels. Alors on veut plus se détacher de sa plaie, de sa tablette, de son iPhone, tout ça, ça devient un absolu. J'en deviens complètement dépendant, si j'ai plus ça, je meurs. Et c'est comme si c'était ça le bonheur. Comme si je voulais pas sortir de ce parc d'attractions et pas rentrer dans cette vie qui est une école et qui me fait grandir. Je deviens capricieux dans ces moments-là. Alors voilà, la vie est une école si j'accepte que dans la vie, il y ait ces moments heureux et ces moments plus difficiles. Et c'est très difficile, pour les grands et pour les plus jeunes. C'est pas facile, ça. Parce que les moments heureux, on les idéalise, on veut qu'ils soient toujours présents. Et les moments malheureux, instinctivement, on les écarte. La croix, on n'en veut pas. On a une répulsion immédiate. Et voilà comme on a souvent une attitude immature devant la vie. Eh bien, la vie nous travaille. La vie nous met à l'épreuve avec ses moments de joie, ses moments de tristesse, ses moments sombres, ses moments lumineux et ensoleillés. C'est Job qui nous aide un grand secours dans ce moment-là. C'était un personnage de l'Ancien Testament. Il avait beaucoup reçu, il avait plein de troupeaux, il avait plein d'enfants, il avait une bonne santé, et du jour au lendemain, il perd tous ses troupeaux, il perd tous ses enfants, il perd sa santé, il est rejeté sur un tas de fumier, et les chiens viennent lui lécher ses plaies. Le jour et la nuit, d'un moment à l'autre. Et Job dit, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » C'est extraordinaire comme sagesse. Alors ça va pas être facile pour Job. Il va rouspéter durant 38 chapitres après. Mais au moins il a commencé par dire ça. Eh bien, c'est l'attitude de notre cœur. La vie, elle est là, justement, pour me former à une certaine souplesse intérieure. Pour me mettre à l'épreuve. Il y a un grand psychiatre qui s'appelle Frankl qui dit « C'est pas à moi de poser des questions à la vie. » C'est la vie qui me pose des questions. C'est la vie qui me sonde. C'est la vie qui me met à l'épreuve. Voilà donc la première façon, si je puis dire, d'être en chemin pour essayer de mieux comprendre quel est le sens de tout cela, c'est de changer notre conception de la vie. La vie, ce laboratoire pour aimer, pour assouplir notre cœur, plutôt qu'un parc d'attractions. Peut-être aussi maintenant corriger notre image de Dieu. Alors, qui est Dieu pour moi ? Et peut-être pour bien d'entre nous. Est-ce que c'est un grand magicien? Quand est-ce que je prie? Quand est-ce que vous, les jeunes, vous priez? avant un examen, avant un contrôle, peut-être avant une rencontre avec le petit ami, la petite amie, pour que ça se passe bien. Voilà, pour que vraiment tout aille le mieux pour, dans le meilleur des mondes pour moi au moment, dans ce moment précis. Et puis si ça marche pas, ben tant pis, je le balance, hein, ça, il me sert à rien, donc je fais autre chose, hein. Voilà, ça marche ou ça marche pas. Si le magicien il marche pas, ben voilà, c'est comme les médicaments, hein. Si un médicament marche pas, j'en prends un autre. Ben voilà, très souvent et pendant bien longtemps, et moi peut-être le premier, on fait comme ça avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il est à mon service, et je le domestique pour qu'il soit à mes bottes, à ma botte. Vous voyez que on rentre pas dans le mystère de Dieu. Ou est-ce que Dieu, j'accepte que pour moi, il soit un père? C'est vrai que quand Jésus guérit cet enfant, eh bien, il va le rendre à sa maman. Quand, plus exactement, il le ressuscite, il va guérir cet enfant précis. Mais il ne va pas guérir tous ces millions et millions d'enfants, il ne va pas ressusciter ces millions et millions d'enfants qui meurent dans la guerre aujourd'hui, par exemple, dans les bombardements. Non. Dieu ne va pas changer, ah t'es d'accord, l'ordre du monde. Il ne change pas l'ordre du monde. Il le laisse tel quel. Voilà, quand votre papa peut-être vous a appris à faire du vélo, ben il vous a mis sur le vélo, et puis il ne vous a pas tenu le guidon. Vas-y mon grand, vas-y ma grande, allez. Tu vas peut-être te planter 2-3 fois, mais après tu sauras pédaler. Et bien ça c'est très important. Dieu ne se substitue pas à nous. Dieu ne change pas l'ordre du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est un Père qui va nous envoyer les épreuves et les joies qui nous permettent justement de grandir. Il va permettre qu'à travers tout cela, notre cœur se fortifie et s'affermisse. Il va surtout être présent. Voilà comment Dieu est Père. C'est qu'il est avec vous, chers jeunes, à chaque moment de votre existence. Il n'est jamais absent. Mais effectivement, il faut comme éveiller ce sens intérieur. Ce sens qu'on éveille par la prière. J'en ai parlé à plusieurs d'entre vous. Dieu, c'est comme un camarade de classe au début. On est dans la classe. Ben voilà, il y a peut-être 28 camarades qui sont autour de nous. Et puis il faudra un trimestre pour qu'on ait des amis. Au départ, Dieu, c'est pas un ami. Il faut que je parle avec lui. Il faut que je vive avec lui. Et à ce moment-là, il y aura comme une certaine intimité, une certaine complicité avec lui, qui fera que je pourrai comprendre un petit peu mieux ces décisions et ce qui m'arrive dans ma vie. Et si jamais je comprends pas, je lui dirai, malgré tout, je te fais confiance. Et c'est comme ça que Dieu, dans notre vie, devient un Père. Voilà, chers jeunes, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons peut-être tirer de ces lectures. Une dernière chose qu'il est très important, à mon avis, de voir, c'est que Dieu ressuscite cet enfant. Mais la véritable résurrection qu'il vise, c'est la résurrection des cœurs de tous ceux qui assistent à ce miracle. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est le grand prophète, comme dit la fin de l'évangile. Dieu nous a visités. Et voilà que les cœurs sont heureux. Les cœurs revivent au terme de cet évangile. Certes, parce que cet enfant a revécu, mais surtout parce qu'ils ont compris un peu mieux quel était le cœur de Dieu. Alors demandons aujourd'hui cette grâce par l'intercession de Marie que l'Esprit nous visite pour que nous puissions saisir avec une plus grande intelligence quel est le mystère de notre vie, quel est le mystère de notre Dieu.